La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnin.
Bonjour.
Du deuil à la colère, l'Iran est le théâtre depuis samedi d'une nouvelle contestation populaire du pouvoir en place.
Et des milliers de jeunes Iraniens, beaucoup de femmes parmi eux, qui manifestaient hier soir encore dans les rues de Téhéran avec ces cris traduits pour nous par Al Jazeera. Mort aux menteurs, voilà ce que crie cette foule iranienne, entre autres slogans hostiles, en particulier aux gardiens de la révolution islamique et au guide suprême Ali Khamenei. Ce sont eux les menteurs, eux qui ont mis 3 jours à reconnaître que c'est bien un de leurs missiles tirés par erreur qui a abattu mercredi un avion de ligne ukrainien juste après son décollage de Téhéran. Dans l'avion, il faut le rappeler, il n'y avait pas seulement des Ukrainiens ou des Canadiens, comme on l'a beaucoup dit, il y avait aussi 82 victimes iraniennes, et c'est donc par un deuil national que tout a commencé la semaine dernière. Mais, nous dit Al Jazeera, les larmes ont vite laissé place à la colère quand samedi, sous la pression internationale, les gardiens de la révolution ont donc reconnu qu'ils étaient bien à l'origine de cette funeste et meurtrière erreur. Le général Hussein Salami, chef des gardiens de la révolution, a eu beau se vautrer depuis dans l'autocritique larmoyante, déclarant dans le quotidien Charvand qu'il n'avait jamais eu aussi honte de sa vie, qu'il aurait préféré que ce soit lui et sa famille qui soient à bord de l'avion abattu plutôt que d'avoir à vivre avec cette culpabilité. Ce qu'en retient le journal réformateur Amchari, c'est que la honte et le mensonge rejaillissent sur tout l'Iran. On écoute l'analyse qu'en faisait hier depuis Téhéran la grande reporter américaine de CBS News, Elisabeth Palmer.
It was a huge admission for this proud and prickly country, which may have appeased critics outside Iran, but it's inflamed them at home.
Le fait que les gardiens de la révolution reconnaissent leur erreur, leur responsabilité, ça a fait l'effet d'une bombe de la part de ce corps d'ordinaire si fier et secret. Et ça a peut-être apaisé les critiques internationales, nous lit Elisabeth Palmer, mais ça a mis le feu à celle à l'intérieur du pays. Les manifestations ont débuté samedi soir à Téhéran avec des centaines d'étudiants qui dénonçaient la corruption et l'incompétence du régime. L'Iran, conclut la journaliste américaine, commence la semaine en conflit non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec sa propre population.
Une population iranienne qui saisit donc ce très rare aveu de faiblesse du camp conservateur au pouvoir pour s'engouffrer dans la brèche.
Oui, s'engouffrer dans la brèche et en remettre un coup de cette contestation de fond qui avait déjà tenté de s'exprimer au mois de novembre dernier, mais qui avait été immédiatement réprimée dans le sang avec des bilans humains qui ont fait état de plus de 400 morts et 25 000 blessés en quelques jours de révolte, donc tués dans l'œuf. La voilà qui se fait à nouveau entendre, cette révolte iranienne, malgré, nous dit la BBC, la très forte présence policière autour des cortèges de samedi et dimanche, les gaz lacrymogènes tirés par la police anti-émeute pour disperser les manifestants. À ceux qui pensent que le régime désormais est en situation de faiblesse, scruté par la communauté internationale et ne peut donc pas se permettre une répression aussi brutale que celle de novembre, eh bien, on répondra en citant ce reportage de l'agence américaine Bloomberg sur la nuit de manifestation qui vient de s'achever, où l'on lit que les forces de sécurité hier soir ont encore intensifié leur patrouille autour des cortèges étudiants et que certains de ces rassemblements s'en sont terminés dans la violence et dans le sang. Sans plus de précision pour le moment.
L'autre dossier fort de l'actualité internationale ce matin, c'est le terrorisme au Sahel et l'attitude des gouvernements dans les pays touchés, Camille.
Oui, en ce jour, les chefs d'État de ces pays se retrouvent à Pau, en France, pour un sommet du G5 Sahel. On s'intéresse plus particulièrement au Niger, le plus durement frappé par les attaques de djihadistes la semaine dernière encore. Jeudi, nous rappelle le site d'info NetAfrique, des dizaines de terroristes avaient attaqué le camp militaire nigérien de Sinegoda. Une offensive très organisée avec véhicules équipés d'armes lourdes et motos. Et tout cela a fait, selon le premier bilan non officiel, 25 morts parmi les soldats et 63 côté djihadistes. Sauf que ce bilan a fait polémique toute la fin de semaine, nous indique le journal en ligne. En particulier samedi, quand les corps des militaires tués ont été inhumés au carré des martyrs du cimetière de Niamey. Et où il est devenu très difficile d'ignorer qu'il y avait bien plus de victimes que les 25 d'abord évoquées. Ce qui a enflammé la presse nigérienne, c'est le fait que le ministre de la Défense ne fasse aucune communication officielle sur le sujet. Il ne l'a fait sous la pression que ce dimanche soir et d'un coup, nous dit l'autre média en ligne Niamey et les deux jours, le bilan officiel est passé d'un coup de 25 à 89 morts. Le Niger est bien face à l'attaque terroriste la plus meurtrière au Sahel, lui qui était encore sous le choc de celle il y a un mois qui avait vu la mort de 71 soldats sur le camp militaire d'Inates. Les autorités nigériennes ont donc menti ou tout au moins ont-elles tardé à reconnaître l'ampleur du massacre. Et cela crée un trouble certain dans l'opinion publique. Au moment, et c'est le média burkinabé Wakatsera qui l'écrit, au moment où le Niger est plus que jamais dans l'œil du cyclone terroriste au Sahel. Comme dans les pays voisins, Burkina, Mali, Tchad, les djihadistes s'y sentent de plus en plus forts car ils profitent, nous dit-on, de la porosité des frontières, de la mauvaise gouvernance et des lacunes en stratégie des armées nationales qui sont pour la plupart en pleine reconstruction. On est là au cœur des questions qui vont être discutées à Pau aujourd'hui par les présidents ouest-africains et français. Au cœur également de ce qu'écrit le spécialiste défense Pierre Derbès dans sa tribune publiée par Jeune Afrique. Le succès de l'opération française Barkhane dans la région, nous dit-il, tient à sa capacité à contrer les djihadistes militairement sur le terrain, au moins autant que dans sa capacité à aider les pays concernés à améliorer justement leur gouvernance et l'efficacité de leurs armées. On est là dans une dimension politique, au moins autant que militaire, et tout essentiel qu'il soit, c'est ce volet de l'opération Barkhane qui nourrit aujourd'hui la défiance, aussi bien des opinions publiques africaines que de leurs dirigeants, lesquels ne veulent pas que l'ancienne puissance coloniale leur dise une fois de plus ce qu'ils ont à faire.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale. On la retrouve bien entendu sur le site de France Culture, franceculture.fr.